Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. La vérité en face.
Et dans la vérité en face jusqu'à 10h, alors que la date limite de la déclaration d'impôt sur papier est finalement repoussée au 31 mai, voilà, on se pose cette question, est-ce qu'on paye trop d'impôts en France? Est-ce qu'on paye trop de droits de succession? Vous-même, est-ce que vous avez l'impression de payer trop d'impôts? On en parle avec nos deux invités, Bartholomé Lenoir, directeur de Contribuables Associés, bonjour.
Bonjour madame, merci beaucoup pour votre invitation.
Avec plaisir, également à vos côtés, Olivier Berthaud, fiscaliste chez Contribuables Associés, bonjour.
Bonjour.
Et vos appels, bien sûr, au 0826 300 300.
Oui, alors profitez-en, hein, ouais. C'est gratuit, entre guillemets, il n'y aura pas d'impôt dessus, il n'y aura pas de TVA. Si vous avez besoin de quelques conseils aussi, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a Olivier Berthaud, fiscaliste, hein, qui est capable de vous répondre. Évidemment, on restera confidentiel, hein, sur les différentes choses. Ne vous inquiétez pas, mais vous pouvez, parce que je sais qu'il y en a qui ont toujours un certain nombre d'interrogations. Bon, déjà, sur la déclaration, voilà, parce que tout le monde n'est pas à jour, c'est vrai qu'il y a ce recul pour le papier, hein, c'est ça, de quelques jours.
Donc, tout à fait, oui, pour le papier, parce que les imprimés sont partis en retard, en fait. Ils ont été imprimés en retard, ils ont été reçus en retard. Donc, l'administration a donné un délai de grâce jusqu'au 31 mai, alors qu'à l'origine, c'était prévu, je crois, jusqu'au 24 mai.
Mm-hmm. Oui, c'est ça.
19 mai, même.
Alors, mais bon, en revanche, il faut regarder.
En ligne, ça reste la même chose.
Alors, voilà. Il faut bien regarder en fonction du lieu où on est, hein, parce que ce n'est pas la même date. Quoi.
Voilà, selon son département. Il y en a pour qui c'est le 24 mai dans les 19 premiers départements, ensuite 31 mai et ensuite 8 juin. Par exemple, en région parisienne, c'est le 8 juin.
Pourquoi il y a ce décalage et il n'y a pas la même date pour tout le monde, Olivier Berthaud?
Je pense que c'est purement informatique. C'est pour éviter les goulots d'étranglement, parce que les premières années, on a vu que parfois il y a eu des bugs, parce qu'il y avait trop de déclarations en ligne qui arrivaient en même temps, parce que ça demande un travail informatique fou, ces déclarations en ligne. Et donc, trop de déclarations bloquer la machine. En fait.
Ça marche plutôt quand même pas mal aujourd'hui, les déclarations en ligne, non?
Il faut avouer que, vu la complexité de la fiscalité française, je tire mon chapeau aux informaticiens de Bercy qui ont monté un système quand même qui est particulièrement efficace, je trouve, pour faire sa déclaration en ligne, même si je ne suis pas favorable au fait qu'on soit obligé de faire sa déclaration en ligne.
Il y a toujours le papier. Hein.
Il y a une sorte de sanction maintenant. Hein, si vous,
oui, voilà, alors justement, voilà, qu'est-ce qu'on risque d'ailleurs si on déclare hors délai
Alors, effectivement, le risque n'est pas très important pour l'instant, parce que la première année, on ne risque rien, et la deuxième année, on a une sanction de 15 euros. Donc,
il y a toujours des gens qui se disent, bon, bah, je l'ai fait en ligne, mais en même temps, je voudrais rajouter un petit commentaire, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas.
On peut le faire.
Il y a une case spéciale.
Mention
où
express.
On peut mettre,
voilà,
mention
je
express.
Le
on peut mettre, voilà, ses commentaires.
Bartholomé Lenoir.
Sur ce sujet, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on aimerait que la fiscalité qu'on a effectivement du service des impôts, on ait la même dans les services publics. Parce que là, on va payer tous beaucoup d'impôts. On est prélevé à la source mensuellement maintenant, mais on va payer beaucoup d'impôts. Et le problème, c'est qu'à côté de ça, en face de ça, on a des dépenses publiques qui explosent, qui sont supérieures au montant des recettes. Donc on paye énormément d'impôts et ça ne suffit pas. Et de l'autre côté, on a un service public qui n'est plus performant. C'est ce que perçoivent les Français. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus, sur la baisse des impôts, qui doit d'abord être une baisse des dépenses publiques. Ça, c'est hyper important, c'est le prérequis.
Ouais. Est-ce qu'on va vers une baisse des impôts ou pas? D'ailleurs, quand on regarde un classement mondial, alors c'est toujours difficile d'ailleurs de bien mesurer les choses, parce que il peut y avoir des taxes. Par exemple, on dit les impôts, il faut voir, il y a les impôts directs, il y a les impôts indirects, parce qu'évidemment, il y a la TVA. On se situe où aujourd'hui?
On est quand même dans les champions du monde. J'ai pas le chiffre précis, mais sur les prélèvements obligatoires, on est à 46%, je crois, en France aujourd'hui. Et ça nous classe dans les trois premiers pays de l'OCDE. En termes de prélèvements obligatoires. Donc il ne fait pas de doute que la France est un pays où on paye le plus d'impôts dans le monde.
Ouais. Ah ouais. Justement, en fait, on paye beaucoup en France, mais il faut justement, comme on l'a dit, raisonner en termes de prélèvements obligatoires, parce que ce qui est...
Rappelons ce que sont les prélèvements obligatoires.
Prélèvements obligatoires, c'est ce qui inclut à la fois les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Et là où je dirais qu'on dépasse tout le monde, c'est en termes de cotisations sociales. Comme on a une protection sociale qui est effectivement très développée en France, on a des cotisations très importantes, et on en arrive au point, à différents des autres pays, c'est que parfois on ne fait plus la différence entre un impôt ou une cotisation sociale. L'exemple type, c'est la CSG. CSG, maintenant, les juristes s'arrachent les cheveux pour savoir si c'est un impôt ou une cotisation sociale. Et c'est quand même plus de 100 milliards d'euros tous les ans.
Ouais, ouais, c'est ça. On a rajouté en fait beaucoup de couches d'impôts, comme il y a par exemple, alors c'est autre chose parce que c'est pas la déclaration de revenus, mais sur les, l'ensemble des taxes que l'on peut payer sur l'eau, sur l'électricité, on a ajouté des taxes sur des taxes, quoi. Attends, c'est ce qui est assez invraisemblable.
Bah, l'exemple, c'est la taxe foncière, par exemple.
Ouais.
Et donc on explique que la taxe d'habitation est en train, enfin sur la résidence principale uniquement, est en train de disparaître. À côté de ça, on voit que la taxe foncière, alors les élus disent non. On n'augmente pas la taxe foncière en contrepartie, mais on se rend compte qu'il y a un amoncellement de petites taxes autour de la taxe foncière, la taxe GEMAPI contre les inondations, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les taxes pour l'intercommunalité, pour le syndicat de communes, pour les chambres d'agriculture, etc. Donc ce qui fait que, comme vous dites, l'impôt, les impôts n'augmentent pas, mais on en crée des nouveaux.
Ah bah donc ça augmente quand même. Voilà. Quoi.
Donc enfin, la masse augmente.
Ouais. Enfin, est-ce que ça augmente vraiment ou comme compte tenu de la suppression de la taxe d'habitation, ça a vraiment changé quelque chose pour les foyers ou pas?
Ah oui, ça, il faut reconnaître qu'effectivement, la suppression de la taxe d'habitation...
Non, mais ce que je veux dire, il n'y a pas eu de nouvelles taxes à côté où on ne s'en rend pas compte, ce que vous avez dit, l'ensemble de ces petites taxes, finalement, qui viennent compenser le reste.
C'est-à-dire que,
quoi.
Pour l'instant, il y a un gain fiscal pour les ménages, effectivement...
Mais ça, c'est une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose, sauf que dans le temps, on se rend compte que cette taxe, cette perte fiscale pour l'État et les collectivités va être compensée par de nouvelles taxes qui arrivent progressivement, mais qui ne sont pas arrivées, effectivement, immédiatement. Mais c'est pour ça que, comme je dis, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Vous avez même une taxe d'habitation sur les logements vacants. C'est-à-dire qu'une taxe d'habitation sur un logement qui n'est pas habité.
Ouais. Ah, pardon,
et puis, il faut ajouter quelque chose, c'est que l'endettement augmente.
Ouais.
Donc comment on finance ces baisses d'impôts aujourd'hui, à très court terme, c'est en augmentant la dette française. Et qui va payer la dette française, ça faut le dire, c'est nous. Dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc,
Et les générations futures.
Aujourd'hui, on estime à 43 000 euros par tête en France la dette représentée.
Ouais. Quand vous dites tout à l'heure, on est les super champions du monde, enfin, on paye beaucoup d'impôts en France, mais quel foyer fiscal, quel profil, quel
tout
Français
le monde. En fait,
tout
ça, il faut bien comprendre déjà la
TVA. Non, mais sur la déclaration d'impôts, tout le monde ne paye pas des impôts. Oui. Là. Voilà. Il n'y a qu'un ménage sur deux, quoi, je crois, qui paye.
Non, tout le monde paye la TVA.
Oui, bien sûr. Non, mais
tout
ça,
monde,
c'est vrai.
Tout le monde paye les taxes sur l'essence. On en parle beaucoup aujourd'hui de l'énergie, etc. Tout le monde, quoi qu'il arrive, paye des impôts. Oui. Ça, faut bien le comprendre. Il y a effectivement sur l'impôt sur le revenu des progressivités qui fait que tout le monde ne le paye pas.
Bah, c'est un ménage sur deux qui ne paye pas. Hein, non, c'est ça.
Oui, c'est à peu près. Oui, à peu près.
Mais il faut pas oublier de dire aux Français que en fait tout le monde paye des impôts. Oui. Il faut pas croire qu'on n'en paye pas. Et notamment quand on voit que la priorité des Français c'est le pouvoir d'achat.
Et surtout en ce moment.
Il ne faut pas oublier que le pouvoir d'achat c'est le salaire moins les impôts.
Oui.
Donc tant qu'on aura ces impôts, tant qu'on aura ces taxes, on abîmera le pouvoir d'achat.
Oui, mais en même temps, parfois, il y a débat aussi, bien sûr, il faut qu'il y ait des rentrées pour que l'État tourne, ce que vous avez dit tout à l'heure à l'administration. 0826-300-300, qui est au bout du fil?
On a Frédéric nous appelle.
Bonjour
Frédéric.
Oui, alors moi je suis un contribuable, pas désespéré, mais furieux. Ouais. Donc on est effectivement surchargé d'impôts, et ça fait à peu près 45 ans que la dette française, donc Giscard a laissé un gouvernement, un pays qui avait de l'argent. Au bout de 2 ans, Mitterrand a commencé à creuser le trou. Je crois qu'il y avait à peu près 60 000 francs de dette par Français de 0 à 99 ans, déjà au bout de 2 ans. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Et ça va continuer d'augmenter puisque Macron nous a mis en, certes pour gérer la crise, mais a continué de boursoufler la dette. Et en plus, donc on va continuer à payer des impôts, et une des choses graves également, alors vous parliez de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, moi, je continue à la payer, hein, je ne dois pas être dans la bonne tranche, et la taxe foncière, du coup, explose. Elle augmente véritablement très fortement dans la commune où je suis. Donc, ne rêvons pas, on va continuer à être taxé. On a un service public, comme un des intervenants l'a dit, des services publics qui sont en difficulté, parce qu'à chaque fois, tout est géré depuis l'État, il n'y a rien qui peut passer par une région. Lorsqu'il y a des décisions qui sont prises, elles ne sont pas des décisions d'économie, elles ne sont pas validées, parce qu'il y a toujours un syndicat, un machin, un truc, un Français râleur qui va tout bloquer, tout empêcher, etc. etc. Ensuite, au niveau des successions, c'est très grave, parce qu'effectivement, on vole deux fois les Français qui ont déjà donc payé trop d'impôts, et en plus, on les vole sur quelque chose qu'ils ont économiser alors qu'ils ont déjà payé des impôts, on le sait.
Et pour vous, c'est un vol, hein, Frédéric. Pour vous, c'est un vol.
Carrément, parce que quand on donne de l'argent à des gens qui n'ont pas forcément besoin et qui n'ont pas plus besoin, quand on voit ce qu'on donne à la SNCF, quand on voit ce qu'on donne à EDF, etc. Non, pour moi, c'est du vol au bon moment. Mais le plus grave, c'est que déjà que depuis Giscard, le premier Macron, ne l'oublions pas, qui a commencé à flinguer l'industrie française, il y a tout un tissu industriel qui a commencé à mourir il y a 45 ans, mais en plus, avec ses successions, avec ses droits de succession complètement fous, on empêche et on gêne la transmission des commerces, des boutiques, des entreprises, des petites, des très petites et moyennes entreprises, qui sont le seul tissu véritablement important pour avoir du boulot. C'est-à-dire qu'ils représentent la plus grosse masse salariale, le plus gros nombre d'employés. Et ce ne sont pas les très grosses entreprises qui emploient le plus de monde en France. On le sait tous depuis longtemps. Et donc, comme on gêne cette transmission, j'ai cru comprendre que l'Italie, par exemple, un système de transmission d'entreprise qui est beaucoup plus normal, quoi, qui n'est pas du tout comme là encore comme en France. En France, je l'ai toujours entendu, Georges Marchais a commencé à le dire, tous les socialistes l'ont dit également, Madame de Goix qui était là encore tout à l'heure est la parfaite représentante de ces gens-là. Un patron, un employeur, un commerçant est automatiquement un voleur en France. Il est automatiquement insulté et traité de sale type.
Mais je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire.
Mais vous entendez les commentateurs un peu partout, à droite, à gauche. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Écoutez Mélenchon. Mélenchon, c'est le. C'est alors, okay. par rapport à Marchais avait un discours. Marchais avait un discours plus ou moins assez poli parce qu'on n'était pas encore dans l'injure. Là, maintenant, on est dans l'injure. Et dans l'injure tout le temps. Et Mélenchon a le même discours que Marchais, mais avec en plus l'agressivité, la méchanceté, la brutalité et la menace.
Restez avec nous, Frédéric.
Ce monsieur a raison sur un point, c'est vrai qu'il y a une dévalorisation du secteur privé aujourd'hui. En France, quand on gagne de l'argent, qu'on travaille dans le privé, on paye énormément d'impôts. Et je pense aussi aux entreprises qui payent énormément d'impôts. Là, on parlait de l'industrie, les impôts de production en France, c'est énorme. Donc effectivement, on a un peu une culture de la fonction publique, etc., qui pèse. Et quand c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon...
Mais il paye des impôts aussi dans la fonction publique.
Il paye des impôts. Mais en revanche, il ne faut jamais oublier que le privé, le secteur privé, c'est ceux qui payent tout le monde. C'est quand même la fonction publique, elle est payée par les impôts.
Oui,
et les impôts, ils viennent du secteur privé.
Oui, bien sûr.
Donc il ne faut jamais... Et en tout cas, il ne faut pas dévaloriser la fonction publique, mais il faut pouvoir avoir aussi un discours pour le secteur privé et leur dire, vous allez me payer moins d'impôts parce que c'est vous qui rapportez, vous êtes le cœur battant.
Oui, alors ce que disait Frédéric, qui est toujours en ligne avec nous, Olivier Berthaud, c'est que c'est vrai, sur la transmission d'entreprise, notamment, elle était taxée. Alors je crois que ça a été un peu aménagé, mais elle reste assez élevée, ce qui pose parfois des problèmes, quoi, bien sûr.
Exactement, oui. Il existe effectivement maintenant, depuis une vingtaine d'années, à peu près un système qu'on appelle le pacte Dutreil, parce que c'était le ministre Dutreil qui l'avait mis en place à l'époque, qui permet de transmettre une entreprise avec une exonération comme de 75%, donc ce qui n'est pas négligeable, mais c'est un système qui est très complexe et pas tout à fait sûr juridiquement, donc déjà les PME, des petites entreprises ne connaissent pas forcément le système où ça demande cher en conseils fiscaux, comptables,
pour des petites,
etc.
Les plus grosses on se débrouille toujours, mais les plus petites...
Pour les petites, en plus, ça veut dire que... Comme,
non mais c'est ça les petits commerces, donc, les petites PME...
Il faut passer un
pacte
en général au sein de la famille, il suffit qu'il y ait des bisbilles au sein de la famille et le pacte n'est pas signé. Donc c'est assez complexe à mettre en place et c'est un peu le problème. Alors quand ça marche bien, effectivement, 75% d'exonération de droits, c'est quand même pas mal, effectivement, c'est déjà ça. Mais ça veut dire qu'il faut s'y préparer longtemps d'avance.
Oui, c'est ça. Allez, on va continuer dans un instant avec vous. Il y a Fred, par exemple, qui, sur les réseaux sociaux, nous pose cette question. Où part tout ce fric? Où part-il, tout ce fric? C'est une autre bonne question qu'on va évoquer avec vous, Bartholomé Lenoir, contribuables associés, Olivier Berthaud, fiscaliste également.
Et voilà, il vous appelle bien sûr au 0800 26 330 300 Sud Radio, il est 10h20.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. La vérité en face.
Et dans La vérité en face sur Sud Radio à 10h15, on continue à s'interroger, est-ce qu'on paye trop d'impôts, est-ce qu'on paye trop de droits de succession en France avec nos deux invités.
Ou l'inverse, est-ce qu'on n'en paye pas assez, finalement.
Avec nos deux invités, Bartholomé Lenoir et Olivier Berthaud de chez Contribuables et Associés. Et puis ça réagit beaucoup au 0826 300 300, notamment Thierry qui nous appelle de Soulac-sur-Mer. Bonjour Thierry.
Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Bonjour. Merci, vous, c'était merci. Sur la transmission, hein, je crois, c'est ça.
Voilà, tout à fait. Merci pour votre émission qui est toujours passionnante. Hein.
Merci. Voilà.
Je vais le dire rapidement. Alors, tout d'abord, je voulais savoir quel montant, lorsqu'on a moins de 70 ans, peut-on donner à ses enfants, transmettre à ses enfants en donation ?
Réponse.
En donation, jusqu'à 80 ans, vous pouvez donner 100 000 euros tous les 15 ans. Et en plus, il y a ce qui s'appelle le don familial en espèces. Si vous avez moins de 80 ans et si les enfants qui vous donnez ont plus de 18 ans, vous pouvez donner en espèces, en numéraire, hein, je dis pas, donc en numéraire, 31 865 euros. Là encore,
qui viennent s'ajouter aux 100 000 euros.
Aux 100 000.
Donc voilà. Vous allez retirer à la banque, quoi. Et donc voilà. Donner des petites coupures.
Tout à fait. Quoi, c'est ça. Alors, comment fait-on pour le déclarer aux impôts ?
C'est un imprimé qui s'appelle le 2739, si je ne m'abuse, ou le 2736, ça dépend.
Ouais.
Et vous le déclarez en ligne maintenant. Depuis un an, on peut le déclarer en ligne, tout simplement, à partir de votre espace personnel, impôts.gouv.fr, tout simplement.
Voilà. Bien, je vous remercie, vous êtes parfait.
Thierry, pour vous remercier de votre fidélité. On a des cadeaux à vous offrir, nous aussi. On a des bijoux défiscalisés de la marque Interchangeable. Vous allez voir, ils sont très beaux. Trois beaux bracelets que vous pourrez offrir à vos proches.
Vous pourrez les transmettre sans aucun
impôt. Exactement.
C'est vraiment merveilleux.
Pour vous remercier de votre fidélité. Merci beaucoup, Thierry.
Merci de votre gentillesse.
Oui. Sur les droits de succession, parce qu'on a parlé effectivement des entreprises, là avec, on parlait aussi à l'instant de la transmission donc du patrimoine, même chose, ça a été beaucoup évoqué pendant la campagne électorale sur une réforme de ces droits de succession, où en est-on précisément ?
Moi, je ne parlerai pas vraiment de réforme. Il faut savoir que les droits de succession et de donation réunis rapportent plus de 15 milliards d'euros par an à l'État, donc c'est quand même pas neutre. Et surtout, il y a un aspect idéologique assez fort dans cet impôt. C'est-à-dire qu'on se sert de cet impôt, finalement, non pas pour faire gagner de l'argent à l'État, mais, comme on dit, pour rééquilibrer ou pour redistribuer un peu la richesse, comme si c'était une tare d'avoir de l'argent et de vouloir le donner à ses enfants ou ses neveux et nièces. Donc, c'est pour ça qu'il y a un aspect idéologique assez fort qui fait qu'on a du mal à s'y attaquer, et les quelques mesures qui étaient prévues durant la campagne étaient quand même assez marginales par rapport au poids des droits de succession. Il faut savoir qu'en ligne directe, ça peut aller jusqu'à 45%, et en ligne indirecte, c'est-à-dire des parents éloignés ou des étrangers à la famille, ça va jusqu'à 60%, et 60% immédiatement, sans abattement.
Et donc il arrive qu'il y ait des familles, et même c'est assez fréquent, qui soient des héritiers qui soient obligés de vendre parce qu'ils ne peuvent pas...
Quand on hérite d'une maison de son oncle et qu'on n'a pas les moyens financiers de la reprendre...
Ou de ses parents.
Effectivement. Mais que de son oncle, c'est encore pire parce que les taux sont plus élevés. Comment on fait si on n'a pas de liquidité pour la racheter ? On est obligé de vendre la maison.
Ouais.
Et c'est pour ça que c'est un impôt... Enfin, les droits de succession sont assez antifamille.
Ouais.
Si vous voulez, parce que
antifamille.
Puisque quand vos parents voulaient quelque chose, mais que vous n'avez plus les moyens de le conserver, or ça faisait peut-être des générations que ce bien était dans votre famille, eh bien ça casse en fait la continuité familiale de votre patrimoine. Et donc il y a quelque chose d'individualiste dans les droits de succession.
Ouais. Est-ce que ça arrive d'ailleurs de plus en plus fréquemment, sachant qu'aujourd'hui, il y a des biens, alors on a tous en tête la fameuse île dorée avec des propriétaires qui étaient là-bas, qui vivaient chichement, et puis qui sont retrouvés avec des terrains devenus très très chers, quoi. Et donc, même chose, devant payer l'impôt sur la fortune, en fait, à l'époque, alors aujourd'hui, c'est livré des taxes énormes, et qui avaient du mal à transmettre. Avec l'élévation du prix de l'immobilier, ça crée beaucoup plus de tensions aujourd'hui.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que maintenant que l'immobilier a bien augmenté partout en France, la part de l'immobilier dans le patrimoine des Français est devenue très importante, et le principe d'un bien immobilier, c'est qu'il est très peu liquide. forcément. Mmh. Donc souvent, bah, quand vous avez une personne, un neveu qui hérite d'une maison qui vaut 500 000 euros, et il faut qu'il trouve 300 000 euros de liquidité pour payer les droits.
Ouais, mais...
Donc s'il n'y a rien d'autre dans le patrimoine, ce qui est comme souvent le cas en fait, eh ben, il est bloqué, il faut qu'il vende le bien.
Ouais.
Et sur l'immobilier, ce qui est intéressant justement, c'est un cas, à mon avis, qui est très, un exemple très symptomatique, c'est quand vous achetez un bien, à 25 ans, vous avez des enfants, vous passez devant le notaire et vous payez des droits de mutation.
Mmh.
Et ensuite, donc vous avez déjà payé des impôts sur cet achat.
Ouais.
Et ensuite, au moment de céder votre patrimoine, vous repayez. Et c'est ça aussi le point des droits de succession, c'est que vous avez déjà payé des impôts partout, toute votre vie, et on vous remet quelque chose qui est injustifié.
On a pas mal de questions pratiques, là, pour le coup, d'auditeurs et d'auditrices sur nos réseaux, hein, puisqu'on le rappelle, hein, côté papier, on a jusqu'à la fin du mois pour déclarer nos revenus. Avec cette question de Caroline qui dit, est-ce qu'il faut rattacher ou est-ce qu'il faut détacher son enfant majeur de son foyer fiscal ? Question.
Alors là, ça
pour
fait
payer
partie,
moins d'impôts.
Oui,
hein, bien sûr,
alors là, ça fait partie de la complexité de la fiscalité française. Il n'y a aucune règle. Il faut faire deux simulations. Une où
on
rattache son enfant, et alors s'il gagne déjà des revenus, on y inclut les revenus, et on voit, on a une demi-part ou une part de quotient familial en plus.
Ouais.
Soit on ne rattache pas son enfant, et s'il vit à la maison, on peut déduire d'office une pension alimentaire forfaitaire de 3500 euros.
C'est 3500 euros, hein,
voilà,
c'est ça.
Oui, ouais. À peu près. Soit véritablement, on l'aide, il est indépendant, mais on lui verse une pension, ou on paye son loyer, ou n'importe quoi, et là on peut déduire jusqu'à à peu près 6 000 euros.
D'accord.
Et il n'y a pas de règle, en fait, parce qu'il y a tellement de paramètres entre le nombre de personnes de la famille, savoir s'ils gagnent de l'argent ou pas, le plafonnement en du quotient familial, qu'il faut véritablement faire les deux simulations.
Ouais, vous voyez que c'est souvent compliqué, hein, les simulations,
honnêtement,
quelles que soient les situations.
Oui. Et puis surtout qu'on va chercher un simulateur sur Internet, qui est parfois un peu basique, qui ne prend pas tout en ligne de compte. Donc vraiment, il faut faire les deux simulations. Au bout du compte, on se rend compte qu'il y a souvent peu de différence entre les deux, quand même.
Donc, en tout cas, il faut se renseigner avant toute chose. Il faut préparer, même, puisqu'on parle des droits de succession. C'est ce que l'on dit bien souvent, mais on ne le fait pas, quoi. Quand on est parent, quand on a la quarantaine, la cinquantaine, etc., préparer.
Bah, oui,
sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, évidemment.
Déjà, parce qu'il y a une instabilité fiscale, déjà, premièrement. Et après, c'est vrai que le problème, c'est que quand on commence à avoir avec le vieillissement de la population, quand on commence à avoir un patrimoine qu'on peut commencer à transmettre, bah finalement on est déjà relativement vieux.
Ouais, c'est ça.
Donc il commence
parce qu'on vit de plus en plus vieux aujourd'hui.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que il y a différentes formules pour essayer de transmettre en payant le moins de droits possible. Déjà, sachant que toutes les donations s'annulent au bout de 15 ans, donc il faut partir le plus tôt possible pour pouvoir faire ce renouvellement de 15 ans. Après, une autre technique consistant à donner juste la nue propriété pour qu'on sache l'usufruit. Il faut savoir que la nue propriété vaut moins cher quand on est jeune. Donc plus jeune on donne la nue propriété, moins il y a droit à payer. Après, vous avez l'assurance vie qui est quand même encore un moyen de limiter les droits de succession. C'est hors succession si vous versez vos primes sur vos contrats avant 70 ans. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de seuils comme ça à respecter pour transmettre.
Alors,
le plus possible.
Pendant la présidentielle, on a parlé aussi des impôts. Et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, lui, il dit il faut quand même taxer à 90% les très riches. Hein. 90%. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? Et puis il est relayé par d'autres, hein, comme Thomas Piketty, etc., qui disent il faut tout reprendre, grosso modo, pour qu'il y ait de la redistribution.
Le prérequis pour mieux comprendre cette proposition, c'est de savoir que Jean-Luc Mélenchon n'a jamais travaillé dans le privé. Il a été systématiquement payé par nos dépenses publiques, par ceux qui payent des impôts. Donc il faut quand même relativiser par rapport à ça. Et puis en fait, je trouve que ça donne un très mauvais signal à ceux qui travaillent. Je pense qu'en réalité, dire on vous prend tout... Il y a des gens qui travaillent, qui font fortune. Ils mettent ça dans l'économie. Ils injectent ça dans l'économie. Ils recrutent des personnes. Donc, dire ça, c'est un très mauvais signal pour le travail, pour le mérite en France.
Et Piketty qui lui a théorisé justement.
Ils sont allés jusqu'à dire oui, il est anormal que qu'il y ait des gens qui ne puissent pas hériter. Donc justement, on va prendre beaucoup plus sur les hauts patrimoines et comme ça, il y aura un droit minimum à l'héritage. Donc il y a certaines théories comme quoi.
Ce qui peut se comprendre aussi pour essayer d'égaliser un peu évidemment les chances quoi pour ceux qui rentrent.
Oui, mais enfin l'égalité n'existe pas. Il y aura toujours des gens bien importants, des malades, des riches, des pauvres.
Vous dites qu'on a un système qui est déjà, en fait, à ce niveau-là, très redistributif. Quoi.
Et l'impôt n'est pas là pour ça, en fait.
Oui.
Il est là pour financer l'État, l'émission de l'État.
Pas
spécialement pour
produire. Il y a aussi un avantage économique à supprimer, ou en tout cas à faciliter les droits de donation, c'est que cet argent-là, il va être réinjecté dans l'économie. Quand on hérite à 30 ans d'une petite somme d'argent, on va avoir tendance à le dépenser. Contrairement à l'épargne des personnes plus âgées qui continuent à augmenter et qui pourraient être intégrées dans l'économie.
Oui, alors il y a une dernière question d'actualité, Bartholomé Lenoir, Olivier Berthaud, c'est la suppression de la redevance. Et c'était un impôt injuste ou pas ?
Redevance télé.
Alors, redevance télé, hein, bien sûr.
Nous, chez Contribuables Associés, on était totalement contre. Donc on était
contre la suppression.
Non, on était contre. Fais attention.
Oui.
Puisque on estimait notamment qu'il y avait du contenu politisé chez France Télévisions. Donc en fait, on trouvait que c'était anormal de payer des impôts tout le monde pour du contenu dont on n'avait pas envie.
Contenu politisé.
Il y a eu d'ailleurs une pétition sur ce point qui a été signée des milliers de fois.
C'était votre principe de départ.
C'est notre principe de départ. Donc on est assez favorable à la fin de la redevance. Néanmoins, la décision en fait de cette fin de redevance par Emmanuel Macron va être clairement compensée, comme toujours, par d'autres taxes ici et là.
Alors c'est compensé dans un premier temps, et puis ensuite ça permet aussi d'ajuster et demander peut-être davantage d'économies.
Ce qu'il faudrait chez Français, c'est d'abord faire de grandes économies, et ensuite baisser les impôts.
Merci.
Merci Bartholomé Lenoir et Olivier Berthaud de Contribuables Associés. Merci pour tous vos conseils.
Merci.
Allez, à suivre dans quelques instants Valérie Expert et Gilles Gansman qui reçoivent ce matin le restaurateur Fred Chenot. Vous retrouverez dès ce soir sur Canal Plus dans la série documentaire Les terroirs de Fred Chenot. À demain.
À demain.
Cher Patrick.